Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
C'est donc ce mardi 19 mars, solennité de Saint-Joseph, patron de l'Église universelle, que débutera officiellement le ministère du 265e successeur de Saint-Pierre, François, son numéro d'ordre. La messe d'inauguration du nouveau pontificat commencera à 9h30 sur la place Saint-Pierre, en présence de plus de 130 délégations officielles, dont 6 souverains en exercice et 31 chefs d'État. En présence également de représentants d'une trentaine de confessions chrétiennes, dont le patriarche œcuménique Bartholoméos Ier, le catholicos arménien Karikin II et le métropolite Hilarion du patriarcat de Moscou. Parmi les quelques 180 concélébrants, le supérieur de l'ordre des franciscains et le supérieur général de la Compagnie de Jésus. Le service liturgique sera assuré par les franciscains du couvent italien de l'Averne. Le déroulement de cette célébration a été présenté à la presse par le père Federico Lombardi, le compte-rendu de Bernard de Cotigny.
C'est peu avant 9h que le pape quittera la résidence Sainte-Marthe où il a séjourné pendant le conclave et où il habite encore en attendant que ses appartements pontificaux soient prêts. Le pape François fera le tour de la place Saint-Pierre en papa mobile pour saluer les plusieurs centaines de milliers de fidèles et officiels attendus. Ensuite, il entrera dans la basilique Saint-Pierre et accompagné des 10 patriarches des églises orientales, François ira se recueillir sur la tombe de Saint-Pierre située sous la basilique. Là auront été préparés l'anneau du pêcheur et le pallium qui se porte au-dessus de la chasuble, les deux signes du ministère pétrinien. Le pape remontera au niveau de la basilique et c'est de là qu'avec les cardinaux démarrera la procession qui de Saint-Pierre rejoindra l'autel situé sur le parvis de la basilique en chantant les laudes. Sur le parvis se trouveront à gauche quelques 250 archevêques et évêques et 33 délégations d'autres églises et confessions chrétiennes. À droite, les délégations internationales, 135, venues de nombreux pays. Sur le parvis se trouveront aussi quelques 1200 prêtres et séminaristes, les représentants juifs, musulmans et d'autres religions et tout le corps diplomatique près le Saint-Siège ainsi que d'autres autorités. Avant le début de la messe, c'est le cardinal protodiacre Jean-Louis Torrent qui posera le pallium sur les épaules de Jorge Mario Bergoglio, un pallium qui n'est autre que celui de Benoît XVI. Le cardinal Danels, premier dans l'ordre des cardinaux prêtres, lira une prière et le cardinal doyen Angelo Sodano, premier dans l'ordre des cardinaux évêques, remettra au pape François l'anneau du pêcheur qui est en argent doré, réalisé par l'artiste orfèvre Enrico Manfrini, décédé en 2004. Ainsi muni de ses attributs pontificaux, à 9h30, le nouveau pape François commencera à célébrer la messe. Une messe, a tenu à préciser le père Lombardi, qui sera sous le signe de la simplicité. Pas de procession à l'offertoire, l'évangile chanté juste en grec et pas en latin, la communion distribuée par les diacres sur le parvis et non par le pape, et ensuite par 500 prêtres sur la place. Une messe d'environ 2 heures, au terme de laquelle sera chanté le Tédéum, mais n'étant pas dimanche, pas d'Angélus. Quant à l'homélie, elle sera en italien, un texte est prévu, mais tenait à conclure le père Lombardi, il n'est pas à exclure que le pape François improvise un peu.
À la messe d'inauguration de mardi, la France sera représentée par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. La Belgique sera représentée par le roi Albert II et la reine Paola. Le Canada par une délégation emmenée par le gouverneur général. Le grand-duc du Luxembourg et une partie de sa famille assisteront à la messe. Les États-Unis seront représentés par le vice-président Joe Biden. Le Brésil, qui doit accueillir les prochaines JMJ, sera représenté par la présidente Dilma Rousseff. Pour désamorcer les polémiques suscitées par la présence de personnalités controversées comme le président du Zimbabwe Robert Mugabe, le Saint-Siège a rappelé qu'il n'envoyait pas d'invitation et que tous ceux qui voulaient venir étaient les bienvenus. C'est donc une page de l'histoire de l'Église catholique qui s'ouvre. Pour la première fois, un jésuite devient pape. Le cardinal Bergoglio s'est engagé à l'âge de 22 ans en 1958 dans la Compagnie de Jésus. Alors pourquoi avoir attendu autant de temps avant d'avoir un pape issu de cet ordre religieux? Qu'est-ce que cela peut changer? Écoutez les réponses d'Hervé Yanou, auteur de l'ouvrage « Jésuites et compagnie » aux éditions Le Tielleux. Il est interrogé par Anthony Torzac.
En 4 siècles, l'ordre de la Compagnie de Jésus n'avait pas eu de pape élu. D'autres ordres religieux ont eu parmi leurs membres des papes, des bénédictins évidemment, mais les jésuites jamais. Pourquoi? Parce que pendant des siècles, ils ont été considérés comme une puissance trop forte au sein de l'Église et que par ailleurs, ils étaient l'enjeu de nombreux conclaves dans des luttes temporelles entre la papauté et les monarques européens. Le fait qu'il y ait aujourd'hui un pape jésuite signifie effectivement que la Compagnie de Jésus a sans aucun doute changé de statut par rapport à l'image que l'on pouvait en avoir. Et puis, cette élection d'un jésuite sur le trône de Pierre marque aussi sans aucun doute la fin d'une grande période de crise pour la Compagnie de Jésus, en particulier une période de crise qui avait débuté entre la papauté et la Compagnie après le Concile Vatican II.
Que pourrait être, entre guillemets, la valeur ajoutée d'un pape jésuite ?
En fait, chaque jésuite est très particulier, a une personnalité très forte. Alors, ce que va peut-être apporter un pape jésuite, c'est cette spiritualité jésuite, celle d'Ignace de Loyola, qui est fondée sur les exercices spirituels. Les jésuites sont aussi des missionnaires, et le pape François est par ailleurs un évêque, qui a donc un contact avec un monde et la grande pauvreté qui est très important. Et puis, les jésuites, de par leur formation extrêmement longue et exigeante, sont de grands intellectuels. Il ne faut pas oublier que le pape François, en tant que provincial des jésuites dans les années 70, au début des années 80, a dû gérer des questions très complexes au moment de la dictature militaire. C'est aussi quelqu'un qui a su s'opposer ou se confronter au pouvoir politique dans son pays en Argentine. Donc il sait, comment dirais-je, gouverner en eau trouble.
Un pape jésuite, est-ce à dire que les postes clés à venir seront également détenus par les jésuites ?
Le pape en décidera, mais je ne pense pas. Les jésuites sont présents sur tous les continents. Ils couvrent l'ensemble des dossiers d'actualité de l'Église au sein des grandes universités jésuites partout dans le monde. Ils sont ainsi engagés dans le dialogue avec l'islam. Ils sont engagés sur les questions d'environnement. Ils sont aussi engagés, en particulier aux États-Unis, sur les questions de bioéthique.
Hervé Yanou, auteur de l'ouvrage « Jésuites et compagnie ». Depuis son élection, l'ancien archevêque de Buenos Aires, qui aimait circuler en métro et mener une vie simple, a dû suivre un agenda très lourd et s'adapter aux contraintes liées à sa charge, au rythme imposant de la vie d'un souverain pontife, même s'il a déjà montré qu'il n'entendait pas se soumettre au protocole. Ce lundi, le pape François a reçu en audience à la Maison Sainte-Marthe sa compatriote, la présidente argentine Cristina Kirchner, un entretien privé très informel, suivi d'un déjeuner. Le Saint-Père a également reçu le cardinal secrétaire d'État, Tarcisio Bertone. Dimanche après-midi, il s'était entretenu avec le supérieur général de la Compagnie de Jésus, le père Adolfo Nicolas, un entretien qualifié de très privé et très cordial. Mercredi, le premier pape venu des Amériques recevra les délégués fraternels et les représentants des autres religions, dont une importante délégation juive composée de 16 membres. Vendredi, il s'adressera au corps diplomatique et samedi, fait inédit depuis des siècles, un pape en fonction rendra visite à un pape émérite. François fera le déplacement jusqu'à Castel Gandolfo pour y rencontrer Benoît XVI. Répondant à un journaliste, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège a indiqué que les responsables de la sécurité se préoccupaient de protéger la personne du pape et son entourage, mais qu'ils respectaient sa volonté. Il en va de la capacité et de l'intelligence des services de sécurité de savoir s'adapter et se mouvoir avec souplesse, selon les désirs manifestés par le pape. En moins d'une semaine, le nouveau pontife romain a réussi à séduire l'opinion publique et les médias avec des gestes d'une grande force symbolique et des discours simples. Avec sa discrétion et sa sincérité désarmante, son humour et son refus de l'ostentation, un homme humble qui improvise ses discours, cherche le dialogue direct et mise sur la proximité avec les pauvres, sur la miséricorde, sur la collégialité, ainsi que sur la dimension sociale et spirituelle du christianisme. Il va nous entraîner à quitter nos pessimismes de vieux continent pour oser aimer la vie, a commenté en France l'évêque d'Évry, Mgr Michel Dubost, tandis que l'évêque de Nanterre, Mgr Daucourt, note que les cardinaux l'ont sans doute choisi parce que c'est aussi, dit-on, un homme de prière et de gouvernement. Voilà l'image du pape François, décrit par ceux et celles qui l'approchent depuis son élection, au risque d'établir une injuste comparaison avec Benoît XVI et d'oublier que François, comme ses prédécesseurs, ne pourra être que catholique et que cela pourrait bien affaiblir son état de grâce médiatique. Reste que la spontanéité et la simplicité évangélique sont bien des caractéristiques du nouveau pape, comme le confirment les personnes qui le côtoient depuis de nombreuses années. Témoin, le cardinal Jean-Claude Turcotte, cardinal émérite de Montréal. Depuis plusieurs dizaines d'années, il séjourne régulièrement dans la même maison d'accueil romaine que le cardinal Bergoglio. Il témoigne de son admiration, mais également de ses espérances vis-à-vis du nouveau pape.
Moi, je viens ici depuis plus de 35 ans. Et le cardinal Bergoglio était aussi un de ceux-là. On se retrouvait toujours, quand on venait à Rome, lui, timide dans son ascenseur et puis tout ça, mais on s'est vu des dizaines de fois. J'ai toujours admiré cet homme simple, et ce qui me frappait, c'était vraiment la simplicité de la vie de cet homme. D'abord, la plupart du temps, il allait à pied aux réunions, lui. Ensuite, c'est pas l'homme qui parlait beaucoup, qui écoutait énormément. Mais un homme avec une douceur qui me frappait avait des convictions profondes, notamment cette conviction en Jésus-Christ. Une nouvelle approche où on n'enseigne pas tellement des dogmes, des blocages ou des condamnations, mais on fait découvrir une personne.
Comment définiriez-vous la ligne pastorale du cardinal Bergoglio?
L'évangélisation d'abord, donc faire découvrir aux gens Jésus-Christ, prêcher vraiment le vrai Jésus-Christ, qui n'est pas l'homme de la condamnation, qui est l'homme de la miséricorde. Ça, on l'a peut-être un peu perdu de vue en Église. Alors ça, c'est une ligne qui me frappe beaucoup chez lui. Le souci aussi de faire partager ses convictions doucement, avec beaucoup de fidélité en ce qu'est l'Évangile. Et puis, le second aussi, c'est cet amour des pauvres. C'est l'homme, il a toujours été, il était reconnu d'ailleurs dans son pays, pour prendre la défense des plus malheureux, des laissés pour compte, ces gens qui sont les préférés du Christ, on l'a oublié. Ça me frappait chez cet homme-là, qui, bon, un bon jésuite, là, qui avait conservé cela et qui le pratiquait très modestement dans sa vie.
Lorsque l'on est cardinal, et vous pourriez en témoigner mieux que moi, mais on a cette proximité, évidemment, avec les gens, tout simplement. Lorsqu'on arrive à la tête de l'Église catholique, peut-on garder cette proximité? Peut-on garder cette ligne pastorale avec cette, excusez-moi l'expression, mais cette lourdeur que peut-être aussi l'institution ecclésiale?
C'est une question embêtante à répondre, hein, parce qu'il est prisonnier d'un système, qu'on ne veuille ou pas. Mais je suis convaincu, déjà des gestes qu'il a posés nous montrent qu'il va être un pape peut-être plus sur le modèle Jean XXIII que sur certains modèles plus récents que j'ai beaucoup aimé Benoît XVI, j'ai beaucoup aimé Jean-Paul II, moi. Mais le bon pape Jean, ce ne sera pas un matamor qui va briser des clôtures, là, mais c'est un homme qui a des lignes de pensée et qui va les mettre en opération. Et ça peut changer l'Église, ça ne fera pas de tort.
Le cardinal canadien Jean-Claude Turcotte, interrogé par Anthony Torzac. Le cardinal Bergoglio a longtemps été considéré par le gouvernement argentin des Kirchner comme son principal opposant. Défenseur de la non-politisation de la Compagnie de Jésus, connu pour sa distance à l'égard des politiques comme des médias, il a cependant dénoncé l'autoritarisme des Kirchner et affronté la présidente en 2010 sur la question du mariage homosexuel et de l'avortement. Il ne s'est pas privé non plus de dénoncer les dérives du néolibéralisme et de la mondialisation, devenant en Argentine une autorité morale en matière de lutte contre la pauvreté. C'est un peu la réunion de la dernière chance qui s'est ouverte ce lundi à New York. Les 193 pays membres de l'ONU ont 11 jours du 18 au 28 mars pour tenter de conclure le premier traité international sur le commerce des armes conventionnelles qui tue près de 2000 personnes par jour. L'objectif est de réguler le trafic d'armes licites et prévenir le trafic illicite. La tâche s'annonce difficile tant les intérêts économiques sont importants. Les précédentes négociations en juillet dernier s'étaient soldées par un échec. Pour les différentes ONG engagées dans ce combat, comme le CCFD, il est désormais urgent d'intervenir et le risque est grand de passer à côté d'un accord historique. Écoutez Zobel Béalal, chargée du plaidoyer paix et conflit au CCFD, Terre solidaire.
Depuis juillet dernier, on a un projet de traité qui n'a pas reçu le soutien de tous les États, mais qui existe. Et depuis juillet dernier, il y a également eu un changement de président à la tête de cette conférence, qui a entrepris des consultations avec plusieurs États à travers le monde. Et la mobilisation de la société civile s'est accrue. Donc aujourd'hui, on est forcé d'espérer qu'à l'issue de cette conférence, un traité pourra sortir des négociations. Mais cet espoir qu'on a n'enlève rien à notre lucidité, parce qu'il y a encore beaucoup de résistance de la part notamment de certains États quant à l'éventualité d'avoir un instrument comme celui-là.
Parmi les problèmes qui figurent dans ce projet, les munitions, les États-Unis refusent l'inclusion des munitions dans le traité.
Ça, c'est une grosse insuffisance du projet de traité existant. Les États-Unis continuent de s'opposer à l'inclusion des munitions dans le champ d'application de ce traité. Nous, ONG et plusieurs États, notamment les pays africains, qui sont victimes de la circulation irresponsable des armes, exigent que les munitions soient contrôlées au même titre que toutes les armes classiques. Cela nous semble être une évidence. Comment peut-on contrôler les armes si on ne contrôle pas les munitions? Quand on sait que la plupart des conflits aujourd'hui dans le monde, en RDC, en Somalie, n'auraient jamais continué d'exister si les belligérants ne s'étaient pas approvisionnés en munitions. Donc il faut absolument que les munitions soient incluses dans ce traité si on veut qu'il soit efficace.
Autre insuffisance du texte de juillet dernier, il ne couvre pas non plus les accords de coopération militaire.
Oui, c'est une deuxième insuffisance. Et ça, c'est l'Inde qui a pris la tête des États qui veulent que ce traité ne couvre pas les accords de défense et de coopération. Là encore, ça nous semble être une aberration. Aujourd'hui, d'après le projet de traité qui existe, un État peut se cacher derrière les accords de coopération et de défense pour continuer des exploitations irresponsables. C'est un peu ce que fait la Russie aujourd'hui vis-à-vis de la Syrie. Donc là encore, c'est une lacune qu'il faut corriger très vite si on veut que le traité soit efficace.
En juillet dernier, de grands pays exportateurs comme la Russie, les États-Unis ou la Chine, mais également des pays acheteurs comme le Pakistan, l'Égypte ou les pays du Golfe, s'étaient acharnés finalement à assouplir ce traité. Quels sont aujourd'hui les rapports de force entre pays?
On a toujours un bloc de pays qu'on appelle pudiquement des pays sceptiques. Je pense au Venezuela, Cuba, la Corée du Nord, l'Égypte et dans une certaine mesure l'Algérie. On a d'autres pays qui disent qu'ils sont déterminés à obtenir un traité fort, mais qui sont également prêts à faire des compromis qui risquent d'affaiblir ce texte. Je pense à la France et la Grande-Bretagne. On a des pays qui sont incertains, comme la Russie, et pourtant déterminants dans l'issue de ces négociations. Et on a également le soutien de la plupart des pays africains qui veulent que ce traité soit adopté au plus vite parce qu'il va être une solution à leurs problèmes. Donc le rapport de force n'a pas beaucoup évolué. Voilà pourquoi nous sommes venus encore plus déterminés qu'en juillet. S'il n'y a pas de traité à l'issue de cette conférence, ce sera dramatique pour les populations civiles et ce sera un recul de plusieurs années parce qu'il sera quasiment impossible de rouvrir un type de conférence comme celle qui a lieu. Les États n'ont pas le droit d'échouer. Ils le doivent aux populations en RDC, aux populations en Syrie, qui sont toutes victimes, comme celles du Sahel, des transferts irresponsables des armes. Donc, au cours de ces 10 jours de négociations, nous voulons que les États mettent au centre de leur débat ces populations plutôt que leurs intérêts économiques ou géopolitiques.
Des propos recueillis par Hélène Destombes. Amnesty International rappelle pour sa part que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis, la France, la Russie et le Royaume-Uni, sont responsables de plus de la moitié des ventes d'armes classiques dans le monde. Le président d'une importante organisation musulmane d'Indonésie a adressé un message au nouveau pape dans lequel il souhaite que soient renforcées les relations entre chrétiens et musulmans et que les croyants des deux religions s'unissent pour affronter les problèmes sociaux comme la pauvreté, les inégalités et les injustices. Un message d'autant plus encourageant que les minorités religieuses sont cibles d'attaques en Indonésie. Thomas Chabol.
264 épisodes de violence ont été recensés en 2012 par l'ONG Human Rights Watch, soit 2 tous les 3 jours. Dans un rapport intitulé « Au nom de la religion », HRW demande au chef de l'État indonésien d'adopter une politique de tolérance zéro face à ces épisodes qui empoisonnent la société. Les groupes fondamentalistes deviennent de plus en plus menaçants. Des fonctionnaires publics refusent d'appliquer la loi garantissant aux minorités le droit de construire des lieux de culte et des gouvernements locaux appliquent la charia. Des extrémistes musulmans attaquent les églises chrétiennes, menacent les fidèles et il arrive que les forces de l'ordre assistent passivement à ce déchaînement de violence. Le gouvernement central de Jakarta s'efforce d'apaiser les affrontements à caractère social et religieux, mais jusqu'ici ces tentatives ont échoué. Les chiites sont également pris pour cible dans cet archipel à très large majorité sunnite. L'épiscopat catholique pointe du doigt la manipulation de la religion à des fins politiques. Il est urgent d'agir pour promouvoir le respect de la loi et de la liberté religieuse.
C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français et sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Merci de nous avoir suivis.